Nous vous invitons à entendre la lecture de la Passion dans l'Évangile selon Matthieu cette année. Et nous commencerons donc ici ce soir avec le chapitre 26.
Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme est sur le point d'être livré pour être crucifié. Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre, appelé Caïphe. Et ils résolurent de faire arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Toutefois, ils disaient: pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple.
Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. À quoi bon ce gaspillage? On aurait pu vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en aperçut. Il leur dit: pourquoi tracassez-vous cette femme? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, celui qu'on appelle Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je le livre? Ils le payèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, il cherchait une occasion pour le livrer.
Sentez comme ça sent bon chez Simon le lépreux. Elle est là chez Simon à Bethanie, le village qu'on appelle Beth Anania, la maison des figues. On sent l'odeur des figues du prophète Jérémie, pas celle de la corbeille de fruits mauvais, non, celle des figues de la première récolte, qui sentent bon la confiance, la vie retrouvée et la nouvelle naissance. Celle du retour des exilés de Babylone, celles qui ont le parfum de la libération. Vision prophétique, signe de promesse pour les nouveaux exilés, loin de Jérusalem, qui relisent avec effroi le premier exil de leurs ancêtres et cherchent d'où leur viendra le secours. Eux qui ont dû fuir Jérusalem, eux qui sont revenus sur l'Oronte dans la communauté de Matthieu, dans la communauté des disciples de la voix du Christ. Est-ce cette femme qui embaume l'air de sa présence? Est-ce son parfum à elle? Est-ce sa libéralité qui embaume l'air du village de Béthanie? Sentez comme ça sent bon chez Simon le lépreux. Elle est chez Simon, un homme sauvé, guéri de sa lèpre par le Sauveur. Sa lèpre s'en est allée, à moins que ce ne soit le Sauveur qui ait accepté de s'approcher de lui. C'est déjà une guérison. Lui, l'impur, le lépreux, celui que la loi retranchait du peuple. Sa guérison réside dans son alliance avec celui qui croit qu'aucun homme n'est impur et que la lèpre n'est pas un péché. À Simon le lépreux, comme à Naaman le lépreux, Dieu envoie son prophète qui fait grâce, qui guérit gratuitement ce qui est détruit en l'homme malade, sa dignité, son honneur, sa vie. Dans la communauté de Matthieu, on aime l'histoire de Naaman le Syrien parce qu'elle rappelle à chacun que le Dieu de Jésus-Christ sauve aussi les Syriens, même quand ils sont lépreux, et que même loin du Jourdain où Naaman se plongea 7 fois pour guérir, même sur les bords de l'Oronte ou dans la province de Syrie, là où la communauté de Matthieu raconte l'histoire de Jésus, Dieu sauve, éveille, et son prophète n'abandonne pas ceux qui l'ont suivi. Ça sent le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, comme ces bouquets que le prêtre agite autour des lépreux pour homologuer leur pureté retrouvée au temple de Jérusalem. Sentez comme ça sent bon chez Simon le lépreux. Elle est là, dans le village de Lazare et de sa sœur Marthe. Est-elle chez elle? Est-elle la sœur de Lazare et de Marthe? D'autres récits ont voulu le croire. Mais pour Matthieu, qui suivit Jésus en quittant la table des péagers, elle est une femme, simplement une femme, dans la maison du lépreux, devenue la maison des figues, la maison de la foi. Elle n'est pas la pécheresse de l'évangile de Luc. Elle n'est pas Marie de Béthanie. Elle est la femme qui s'approche de Jésus avec un trésor. Comme les mages venus de loin au début de l'évangile, sur la route d'Antioche sur l'Oronte, et qui apportent leur parfum, la myrrhe et l'encens, ce qu'on brûlait sur l'autel d'or dans le temple de Jérusalem, avant que le temple ne brûle lui-même. Sentez comme ça sent bon la transgression depuis qu'elle est entrée. Elle se fait mage venue d'Orient. Elle, la femme dont on ignore le nom. Elle se fait prêtresse et prophétesse en rendant poreuses les frontières du profane et du sacré, mélangeant les onctions que seul le prêtre fait et l'onction de la servante qui accueille dans la maison du maître. Comme le prophète Samuel oignit la tête de David, comme le prêtre Tsadok oignit Salomon pour en faire un roi, la femme au flacon d'albâtre se fait faiseuse de roi. Comme la reine de Saba montant de l'Arabia Félix pour offrir au roi sage le meilleur de son royaume. Autre Balkis arrivant avec pour ambassade les aromates, les gommes arabiques et la myrrhe venue des jardins traversés par le Wadi Hadramaout, ou des échoppes des marchands de Sanaa peut-être. Elle apporte un flacon de cet albâtre que les Yéménites polissent si finement qu'ils en font des fenêtres tamisant la lumière. Matthieu connaît le prix de son cadeau. Il reconnaît le prix incalculable de son geste. Lui, le péager qui comptait la dîme de la nette, du cumin et de la menthe. Il sait que ce qu'elle vient de sacrifier n'a pas de prix. Sentez le parfum envoûtant répandu sur sa tête. Dans un geste aussi délibéré qu'inattendu, elle répand un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, comme un acte de reconnaissance, comme une onction royale, et les disciples immédiatement la jugent. Elle n'a que faire de ces hommes qui comptent. Elle ne compte pas. Elle donne son trésor parce qu'elle sait que le royaume qui vient est inestimable, qu'il n'a pas de prix. Plus inestimable que le parfum qu'elle vient de répandre. L'évangile de Marc et de Jean y reconnaissent le nard, une denrée tellement rare qu'elle est inestimable, apportée par des caravanes lointaines qui viennent de l'actuel Pakistan. Cette herbe folle ressemble fort à la femme qui vient d'entrer chez Simon le lépreux. C'est une herbe dont on extrait l'essence rare. Pline l'Ancien la décrit ainsi avec passion. Le nard est une plante à fruits, à racines épaisses et lourdes, mais courtes et noires, fragiles, quoique grasses, ayant l'odeur moisie du souchet. Ses feuilles sont petites et serrées, le haut des tiges se ramifie en épis barbus, et le nard pur se reconnaît à sa légèreté, à sa saveur, à sa couleur rousse, à son odeur suave, à son goût très astringent dans la bouche, à sa saveur cependant agréable. Et il ajoute, les épis se vendent 100 deniers la livre. Et il donne aussi la recette, on le fait macérer dans de l'huile et on le presse pour en extraire l'essence. Matthieu ne précise pas qu'il s'agit de nard. Dans la communauté d'Antioche, il ne faut pas vexer les commerçants locaux qui connaissent les cystes merveilleux de la Syrophénicie. Mais dans la communauté mathéenne, nul n'ignore la Babylone du premier exil et le nard du Cantique des Cantiques. Sentez le nard précieux qui entête les disciples. La femme ne parle pas, mais il parle tous contre elle. Elle gaspille, elle est indécente avec son parfum de grand prix. Fixée sur la valeur des choses, comme un arôme se fixe sur l'ambre gris, leur pensée marchande l'amour de Dieu. Et comme dans une association d'idées grossières, ils invoquent les pauvres devant toute cette richesse. Ah, les pauvres, non contents de les voir porter le fardeau de la précarité, les disciples leur font maintenant porter leur bonne conscience. Comme si cette femme allait vendre son trésor pour donner 100 deniers aux pauvres. Ils ne voient pas qu'ils sont les prochains marchands sur la route caravanière et que comme les frères de Joseph qui vendirent leurs frères, ils trahiront celui devant lequel ils veulent paraître à leur avantage. 30 deniers pour la vie d'un homme. Oui, tout se paye, mais pas de la même manière. Ils le comprendront plus tard. Judas surtout, mais tous les autres autour aussi. Sentez comme le parfum embaume l'air à Béthanie. Elle est venue oindre le Christ. Elle est venue avant qu'il ne meure. Elle avait de sa vie à offrir avant qu'on lui prenne la sienne, à lui le Sauveur. Elle ressemble fort et comme à s'y méprendre à Marie la Juive, cette parfumeuse que les historiens de l'époque de Jésus pointent du doigt comme une experte en extraction d'essences odoriférantes. Créant, d'après les historiens grecs, de nouveaux outils, fourneaux et alambics, pour perfectionner son métier, ce métier accompli par les femmes depuis la plus haute antiquité. Seules les femmes étaient parfumeuses. Marie la Juive est à Béthanie, et Matthieu ne s'y trompe pas. Elle connaît son affaire, elle sait ce qu'elle a à faire. Il fallait ce geste afin que tout soit accompli, avant que tout soit effacé, pour que rien ne s'efface justement, pour que partout où la bonne nouvelle de Jésus, celui qu'elle a élevé au rang de Christ par son onction, sera prêchée dans le monde entier, à Jérusalem, à Antioche sur l'Oronte ou partout ailleurs comme ce soir ici. On raconte en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, pour qu'on sente encore longtemps le parfum du salut. Sentez comme ce parfum nous bénit. Amen.